C'est parti.
C'est que comment tu...
Vas-y, commence.
Bah oui, d'accord, je vais dire un mot.
Interview d'Alexa Conradi, présidente de la FFQ, Fédération des femmes du Québec, enregistrée à Montréal en mars 2012.
Alors, je suis une Montréalaise surtout, mais j'ai grandi aussi à Londres puis à Toronto. Mon père est immigrant de la Norvège et ma mère est une Canadienne anglophone. Et j'étais ici surtout à l'adolescence et mes parents ont déménagé vers l'Ouest canadien quand j'avais 18 ans, puis moi je voulais rester à Montréal. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'univers francophone du Québec. Et parce que ma langue c'est maternelle, c'est l'anglais. Et c'est pas longtemps après ça que j'ai découvert un milieu militant, mais j'ai surtout appris à connaître le mouvement féministe en tant que participante. Je suis arrivée dans le mouvement des femmes et le mouvement féministe parce que je me suis mariée très jeune, très jeune, à quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. Et j'ai eu deux enfants avec lui. Et il était malade en plus. Et je me suis trouvée dans un très court laps de temps dans une situation de grande fragilité, à la fois parce que c'était pas un homme sympathique. Deuxièmement, je me suis trouvée dans la pauvreté et j'avais pas de vie, j'avais pas de famille au Québec. Et donc, je suis allée dans ce qui s'appelle un centre de femmes. Puis le centre de femmes, c'est pas une maison d'hébergement pour une femme qui est victime de violence conjugale, mais un endroit au Québec, puis il y en a beaucoup d'endroits comme ça, où on accueille les femmes, quelles que soient leurs difficultés, le jour. C'est pas un lieu où on passe toute notre vie ou la nuit, mais on y va pour se mettre avec d'autres à réfléchir à nos conditions. Donc, il y avait des activités d'accueil et j'ai comme découvert un peu le mouvement féministe à travers ce milieu-là. Ce milieu-là m'a permis de comprendre que ce que moi je vivais n'était pas un enjeu uniquement individuel, mais s'inscrivait dans une histoire de ce que plein de femmes ont vécu avant moi. Et elle proposait une réflexion critique sur la situation avec laquelle, tout en me respectant, qui m'a permis, moi, de réfléchir à la condition des femmes plus largement, à la pauvreté que les femmes rencontraient, à la conciliation avec les enfants, avec la violence conjugale, avec des enjeux économiques plus globalement. Et elles ont proposé une vision sur le changement social et comment ça s'opérait avec les femmes les plus concernées. C'est pas juste un endroit d'accueil de services pour les femmes en difficulté, c'est un endroit où on se transforme. Puis on devient, on apprend tout l'univers possible de transformation sociale. Donc, dans ce que moi j'ai appris là, en étant participante au centre, d'abord j'allais un peu pour le soutien, mais après ça j'ai fait « Oh, mais c'est le fun, ici on organise des manifestations, ici on se rencontre en dehors, ici c'est possible de participer à des ateliers sur la sexualité, sur on a organisé des actes de garderie, c'est comme un investissement dans un milieu avec d'autres pour changer des affaires avec des problèmes concrets que des femmes rencontrent, puis un lieu d'apprentissage sur en quoi ça rapport avec l'organisation sociale, politique, économique. Donc, moi, ça a transformé ma vie. Je serai éternellement reconnaissante des centres de femmes pour qu'est-ce qu'elles m'ont donné. Et ce que j'aime le plus avec ces milieux-là, puis ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont financés quand même par l'État, mais ces milieux-là, ce qui permet de faire, c'est comme de permettre aux... Personne prend les femmes comme étant des incapables, mais bien plutôt une source potentielle de transformation. Et ça, de s'appuyer sur comme cette force-là, puis de croire au potentiel des femmes, puis quelle que soit leur situation, il y a des femmes qui arrivent encore ultra-poquées, en très mauvais état. Mais c'est un endroit où on se rebâtit, puis on change nos vies. Donc, c'est précieux comme milieu. Puis, comme je dis, on change nos vies. Donc, pas juste sa vie, mais nos vies. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux, finalement? Moi, j'étais active là. J'étais pas employée là. J'étais active là. Et elles m'ont appris, m'ont permis d'apprendre les débuts de rouage de l'organisation communautaire, de la militance.
Du pain et des roses. Marche des femmes contre la pauvreté. du 26 mai au 4 juin 1995.
Et puis, après ça, j'ai déménagé en Estrie quelques années plus tard. Et j'ai appris que le mouvement féministe au Québec allait organiser ce qui s'appelle la Marche du Pain des Roses. Et c'est une marche qui avait lieu en 1995. En fait, au début, ça devait être une cinquantaine de femmes qui allaient marcher 200 km entre Montréal et Québec pour réclamer des revendications contre la pauvreté. Et c'est devenu une marche de 1000 femmes qui ont marché 200 km ou à peu près de trois régions du Québec allant vers Québec. Et moi, je suis devenue une des militantes au cœur de l'organisation dans une région du Québec. Les organisatrices pensaient qu'on allait être 50. Finalement, 1000 femmes voulaient s'inscrire. Et c'était la première fois qu'on faisait vraiment le constat à quel point la pauvreté est un enjeu féministe. Parce que jusqu'alors, la plupart étaient soit axées sur des luttes pour la reconnaissance de droits, les libertés, notamment en matière d'avortement, par exemple, ou sur la question de violence. Mais depuis de nombreuses années, il n'y avait plus eu autant de connexion, mettons, avec les luttes syndicales féministes d'une certaine époque. Et donc, c'était une volonté de réinscrire une perspective économique et de faire reconnaître que la pauvreté avait un sexe. Et ce qui était quand même incroyable, c'est que pendant cette marche-là, qui a duré 10 jours, c'est que tous les jours, il y avait des gens qui suivaient les marcheuses. Les médias étaient là tous les jours. Dans les villages, on passait, puis il y avait des rassemblements pour saluer les femmes qui marchaient en passant. Et il y avait 9 revendications assez concrètes. Augmentation du salaire minimum, gel des frais de scolarité, équité salariale, des choses comme ça. Et cours de français pour des immigrants. Des choses comme de base, pas toujours très, très politiques. C'était des revendications plutôt pointues, mais qui, l'analyse des causes n'était pas nécessairement très visible. Mais pendant tout le parcours, les médias ont tellement suivi avec une sympathie incroyable qu'on ne pouvait jamais attendre. Et ça a eu l'impact d'obliger le gouvernement, d'une certaine façon, à essayer de répondre, du moins en partie, aux revendications du mouvement. Et à l'arrivée à Québec, il y avait 15 000 personnes qui se sont rassemblées pour accueillir toutes ces marcheuses-là, dont j'étais. Et donc, l'expérience a un peu marqué une génération de féministes. Parce que ça a été, d'une part, une expérience collective incroyable. On marchait tous les jours ensemble. On allait coucher dans des gymnases, tout le monde ensemble. C'était comme une expérience totale. Pour plusieurs femmes, c'était une occasion, notamment pour des femmes d'un certain âge. C'est une première fois, souvent dans leur vie, qu'elles n'avaient ni responsabilité familiale, ni responsabilité pour faire la nourriture à quiconque. Et elles avaient du temps pour penser pour elles-mêmes. Tu sais, 10 jours où tu marches en gang, soutenue, collectivement, 20 km par jour. Il y a quelque chose dans le rythme de la marche comme ça, dans la rue, toute la journée, qui t'amène à vivre à un autre niveau. Passer une sorte de réflexion sur soi, sur sa vie, développer des liens avec du monde, puis aussi se renforcer dans la lutte. Et ça a créé une fierté féministe très, très, très forte. Il y avait de la beauté, il y avait des arts, il y avait des personnes invitées d'un peu partout dans le monde et ça a donné beaucoup d'espoir au mouvement féministe. Et il y a beaucoup de travail dans les années qui ont suivi qui a été nourri de cette expérience-là. Le gouvernement a répondu, mettons, sur 6 sur 9 des revendications, ou grosso modo. Et en même temps, c'était juste dans une période pré-référendaire au Québec. C'était quelques mois avant que le Parti québécois voulait faire un référendum sur la souveraineté du Québec. Et ils savaient que la population féminine avait moins tendance à voter en faveur de la souveraineté que les hommes. Et c'était un exercice clair d'essayer d'intéresser les femmes à voter pour la souveraineté. En même temps, c'est rare qu'on peut bénéficier d'une certaine conjoncture favorable comme ça, où ils veulent répondre à des revendications féministes. Parce que depuis ce temps-là, bien, on a beaucoup, beaucoup plus de difficultés. puis on est devenu beaucoup plus politisé aussi avec cette marche-là. Donc, pendant la marche du Pain de Rose, il y a eu plusieurs femmes qui sont venues dans des pays du Sud avec des groupes de coopération, de solidarité internationale, et elles nous parlaient des politiques d'ajustement structurel lors de nos soirées libres. Et les femmes qui marchaient trouvaient que tout d'un coup, il y avait des liens à faire entre ce qu'elles racontaient avec les politiques d'ajustement structurel et ce qui nous arrivait ici. Et là, c'est un début de conscience sur la mondialisation et tout et tout. Et là, il y a des femmes qui ont eu l'idée que, en fait, si on voulait vraiment changer les choses avec un projet plus visionnaire, plus antipatriarcal, un projet contre le néolibéralisme. C'est comme ça qu'on en parlait vraiment à l'époque. C'est drôle comment les mots changent avec le temps. Aujourd'hui, on parlerait plus clairement du capitalisme. Mais à cette époque-là, c'était comme si on se mettait les femmes du monde ensemble dans une perspective de lutte. Pas juste une perspective de représentation à l'ONU, mais dans une perspective d'enracinement du mouvement et de lutte collective. Ben, peut-être on pouvait changer de quoi. Parce que les forces économiques étaient en train de s'organiser, donc nous aussi, on devait le faire.
Origine et identité politique de la Fédération des femmes du Québec.
Alors, la Fédération des femmes du Québec est née en 1966. Donc, elle est née d'une initiative de beaucoup de femmes, je dirais, de milieu francophone, qui voyaient que les femmes n'étaient pas égales au plan légal. Et voulait initier des changements et trouver que le Québec avait besoin d'un lieu fédératif pour pouvoir effectuer ces changements-là. Donc, elles sont parties avec sans tête. Puis en 66 au Québec, il y avait encore plusieurs discriminations au plan légal. Les femmes ne pouvaient pas signer des contrats seules. On ne pouvait pas aller à la banque puis emprunter sans l'autorisation. Il y avait des choses de base là, qui n'étaient pas reconnues comme ce qu'on reconnaît à une personne. Donc, il y avait des luttes comme ça à mener. Au fil des années, et au fil des gangs aussi, ce mouvement-là, ce groupe-là est devenu. Il y a eu des hauts et des bas avec l'histoire également. Alors, des fois, sa lutte était portée sur l'avortement, d'autres fois sur les enjeux de la pauvreté. Puis aujourd'hui, ça regroupe environ 185 organisations réparties un peu partout au Québec. Puis là, on peut penser au comité conditions féminines des syndicats, les maisons d'hébergement, les centres de femmes, les groupes de femmes qui interviennent sur la question du travail, des femmes immigrantes, des femmes racisées, des femmes de l'Église qui sont féministes, complètement pro-choix, des groupes de lesbiennes. Vraiment, c'est une grande variété avec un degré de radicalité assez large, comme on peut passer à un féminisme très égalitaire, libéral, à un féminisme plutôt radical. Alors, c'est une vraie fédération avec toutes les tensions que ça peut représenter. On a un travail aujourd'hui qui s'ancre dans une perspective assez critique où dans notre mission même, on parle de s'opposer au patriarcat, au capitalisme, au colonialisme, par exemple. Et donc, pour un groupe qui a un statut historique assez important, un peu mainstream, aujourd'hui, on est vu comme étant la gauche du féminisme. Puis au Québec, c'est nouveau qu'on appelle les groupes féministes de cette façon-là. On n'a pas une tradition politique qui permet de brosser un portrait aussi clair gauche-droite que dans d'autres pays. Mais c'est nouveau. Donc là, on a parfois des crises identitaires, je pense, comme organisation, pour savoir si on veut bien assumer l'étiquette. Puis la fédération, elle, est vraiment, historiquement, probablement le poids de son travail était dans le lobby. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup moins là, parce que le constat des membres, c'est nos propositions sont beaucoup plus radicales que ce que le gouvernement, et les gouvernements et provinciaux et provinciales et fédérales ont comme projet. On est de plus en plus en grand écart avec les gouvernants, et donc de passer notre temps à les rencontrer pour qu'ils nous... qui gardent leurs oreilles complètement fermées. On perd de moins en moins de temps là-dedans, mais on continue à participer à des commissions parlementaires parce qu'on le voit comme une occasion de faire des débats avec la société. Mais on a aussi mis beaucoup d'énergie dans la mobilisation collective. Donc, la FFQ est organisée pour avec toutes sortes de comités de moyens là, pour faire en sorte que dans une année, on se mobilise. Bon, tantôt sur l'éducation, tantôt contre la guerre en Afghanistan ou en Irak, tantôt sur des enjeux de pauvreté ou la perte de services publics, la tarification des services publics, tantôt pour le respect du droit à l'avortement. Les sujets sont nombreux.
Rôle formel et informel de la FFQ.
Alors, ce qu'on a fait avec les années, c'est qu'on a essayé de trouver des manières. À la fois, on a des manières très formelles et après ça, on a toutes sortes de manières moins formelles pour s'organiser. Donc, la FFQ comme telle a son réseau de membres, une assemblée générale par année, un conseil d'administration, un exécutif, des comités de travail. Et tout ce monde-là contribue à développer un plan d'action et il y a une équipe de travail qui soutient tout ça, mais que la force de l'action militante est très importante à travers tout ça. Donc ça, c'est comme la partie la plus straight, la plus traditionnelle dans une structure organisationnelle. Après ça, on s'est dit que la FFQ ne veut pas travailler de manière uniquement à se renforcer comme organisation. Notre objectif, c'est de travailler de manière à renforcer les luttes féministes. Donc, on accepte que notre rôle n'est pas toujours en premier plan, puis on travaille à créer des espaces de coordination de toutes sortes de milieux où on offre une sorte d'infrastructure pour l'organisation de ça. On joue un rôle leadership souvent, mais il y a des fois où on prend plus ou moins de place pour permettre à des groupes qui ne seraient jamais membres de la fédération pour différentes raisons. Je vous donne un exemple. Il y a un groupe qui s'appelle Femmes autochtones du Québec. C'est un regroupement de femmes autochtones. Et il y a un certain nombre d'années, on a écrit un protocole de solidarité avec femmes autochtones pour définir nos relations de nation à nation. Les femmes autochtones du Québec n'ont pas envie d'être des Québécoises. Elles sont des femmes autochtones avec chacune, il y a 11 nations au Québec. Alors, à la place de s'attendre à ce qu'elles deviennent membres de la fédération, on a des rapports d'égal à égal. Alors, dans ce contexte-là, quand on organise, bien, on s'assure qu'il y a toujours une présence de femmes autochtones lorsqu'elles le veulent. Puis elles ont donc pleinement leur voix dans les travaux qu'on développe. Donc, il y a des lieux sur 12 jours d'action contre la violence, il y a l'organisation de la Marche mondiale des femmes, il y a des lieux de travail aussi en coalition avec des groupes mixtes. Donc, il y a vraiment des lieux différents. Et ça, c'est la partie plus informelle. Puis, pour le moment, c'est un équilibre qui fonctionne.
La recherche de consensus comme base de fonctionnement.
Lorsqu'il y a des grandes décisions à prendre. Et là, c'est un groupe, un vote, mais on ne vote pas souvent. On essaie d'abord de commencer à se parler pour essayer de fixer des objectifs, essayer de voir comment on voit les choses. Une fois qu'on a vu si on a une vision commune de quelque chose, bien là, on essaie de voir est-ce que de là, on peut tirer certaines conclusions. Puis aussi, on a suffisamment d'histoires bâties où on sait où sont nos consensus et où sont nos divergences. Donc, on travaille avec connaissance de cause. Alors là, on va bâtir sur ce qui est convergent et on essaie toujours de trouver ce qui rassemble. Et c'est pas juste l'organisation comme la FFQ qui anime cet espace-là, c'est aussi les autres groupes veulent la même chose pour la plupart. Après ça, on sait qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles. On a eu, par exemple, des débats il y a un an ou deux sur la désobéissance civile ou sur l'action directe dans le cadre de l'organisation de plusieurs séries d'actions. Et ce n'est pas tous les groupes qui étaient à l'aise avec le fait d'engager leur organisation là-dedans, mais on a fait nos débats. On a pris le temps, premièrement, de s'assurer qu'on comprenne toute la même chose de c'est quoi les enjeux, c'est quoi les conséquences, dans quel contexte on s'est donné des balises. Et là, après ça, on a discuté, on a débattu et on a voté à la fin. Puis on a voté, puis c'est pas un drame, c'était un vote où il y a quelques abstentions, quelques contre, mais majoritairement d'accord. Ça nous a permis de faire... d'organiser un certain nombre d'actions directes et c'est une première pour le mouvement aussi organisé. Ça a été surtout dans l'histoire des groupes pas nécessairement petits, mais pas nécessairement fédératifs qui ont fait ça par l'histoire. Donc ça, c'est comme un exemple. D'autres fois, là, si je prends la Fédération des femmes du Québec, l'Assemblée générale de la Fédération, il y a un poids de vote selon la taille de l'organisation. Donc, les grandes organisations nationales ont 4 votes, les groupes locaux en ont 2, puis les individus 1. Donc, il y a une certaine hiérarchie qui est là, mais en même temps, tout le monde a droit de parole à l'Assemblée au même titre que nôtre. Et puis, au moment du vote, ben, tu comptes, tout simplement. Puis, c'est une Assemblée assez traditionnelle, avec propositions, amendements et tout ça. Donc, il y a un parti différent. Là, il y a aussi, peut-être je donnerai même un troisième parce que c'est un espace qu'on est en train d'expérimenter en ce moment. C'est avec les États généraux sur l'action et l'analyse féministe. C'est une démarche qui vise à permettre à une certaine réflexion sur le féminisme et comment il est constitué, qui fait partie, comment on organise et analyse nos luttes, comment on comprend les défis qu'on a en ce moment, puis un peu essayer de se dresser une certaine vision sur comment on veut relever les défis des 20 prochaines années. C'est quand même, c'est ambitieux comme truc, puis et là-dedans, on a créé un espace où des femmes avec une assez grande diversité, probablement la plus grande que moi j'ai vue dans un comité comme ça, des femmes, là on a des femmes qui sont dans le milieu du travail du sexe, d'autres qui sont dans le milieu du syndicalisme, d'autres qui sont anti-prostitution, d'autres qui sont des femmes immigrantes, des femmes noires, des jeunes, des plus vieilles, des groupes de femmes plus groupes autonomes, des très radicaux, vraiment c'est une grande variété. Et on est en train de discuter. Là, pour prendre une décision, ça doit être quasiment 3/4 doivent être d'accord pour bouger. Donc, ça veut dire que c'est possible de dire non et c'est possible aussi de bâtir des consensus. Et là, c'est la première fois à une échelle plus importante, juste pour le début du processus, parce que c'est une invitation à travers le Québec de participer à une grande réflexion. Mais le groupe qui l'organise négocie, comme je n'ai jamais vu, les rapports de pouvoir à l'intérieur du mouvement des femmes. Et c'est magnifique à voir, mais c'est dur. Un des inconvénients, parfois, c'est qu'on évacue parfois les débats entre nous pour pouvoir faire ça, mais en même temps, dans une période où les attaques sont nombreuses, c'est difficile, c'est une force quand même incroyable de pouvoir trouver à bâtir quelque chose ensemble où on met tout le monde un petit peu d'eau dans notre vin pour trouver une manière d'être ensemble. Mais les inconvénients de ça, et je les trouve importants, c'est que parfois, c'est au détriment de certaines voix minoritaires, cet espace de consensus. Et donc, j'essaie de voir dans mon travail comment on peut mieux articuler ces tensions-là, et c'est essentiel pour moi dans mon identité comme féministe d'utiliser les espaces de pouvoir que j'ai parce que j'ai une responsabilité importante dans l'organisation de la FFQ. Donc, c'est important d'essayer de voir comment on peut recomposer les relations pour mieux tenir compte des voix minoritaires. Donc, ça, c'est un inconvénient. L'autre inconvénient de notre structure très, très solide, c'est que les individus, les militantes qui n'ont pas de lien avec une organisation, elles trouvent plus difficile de trouver leur chemin dans ce mouvement-là. Ce n'est pas toujours évident de trouver sa place. Donc, ça, c'est pour moi les deux plus grands inconvénients, mais en même temps, c'est une force incroyable. Donc, le défi pour les prochaines années, c'est d'une certaine façon, comment on peut maintenir cette force-là tout en trouvant, laissant place à une plus grande diversité, puis laisser vivre, comme accepter de vivre avec parfois un petit peu plus de différence parmi nous. Là.
Exemple d'un groupe membre très actif, les centres de femmes.
Les centres de femmes sont, comme je disais, des lieux de regroupement de femmes qui font appel à un centre pour un ensemble de raisons. Ça peut être juste parce qu'elles ont envie de militer, d'autres c'est parce qu'elles sont isolées, d'autres parce qu'elles vivent des problèmes X, Y, Z. Et dans l'approche qui est là, il y a l'idée que les femmes ont besoin de services, d'accueil, de soutien. Mais aussi, c'est toujours fait dans un esprit d'éducation populaire où donc l'objectif est de jamais traiter le problème individuel d'une femme comme étant le seul produit d'un problème psychologique, par exemple, mais s'inscrit dans les rapports sociaux de sexe, s'inscrit dans les rapports de classe, les rapports de race. Et donc, tout ça s'inscrit dans une démarche de politisation et de prise en charge par et pour les femmes Et aussi qui vise à ce que les femmes identifient les moyens d'action collective pour changer la situation. Donc, des fois, elles vont des actions collectives peuvent être de petite échelle, comme, je ne sais pas, réclamer une rampe d'accès pour les personnes en fauteuil roulant dans un restaurant, tout comme de participer à des grandes marches mondiales des femmes contre la pauvreté et la violence envers les femmes. Donc, ça prend des ampleurs différentes. Donc ça, c'est un de nos groupes membres, un des groupes le plus actifs d'une certaine façon lorsqu'on est en action à la Fédération.
Les effets du backlash.
Je dirais qu'on est encore d'une certaine façon un peu sonné. Parce que il y a des niveaux de backlash. Il y a certaines idées que les enjeux féministes sont plus à jour ou bien que c'est plus nécessaire parce que l'égalité serait atteinte. Cette partie-là, on est plus habitué à travailler là-dessus, puis on essaie de faire un travail pour juste concrètement faire la démonstration de façon différente à s'attaquer à cette idée-là que l'égalité est atteinte, puis bon. C'est le discours gouvernemental, c'est le discours médiatique majoritaire. Celui-là, ça fait partie, en fait, moi j'ai lu des documents il y a 20 ans, puis on disait que le féminisme est mort. On a envie tout le temps de dire que le féminisme est mort. Donc celui-là, ça en fait partie des enjeux puis des défis, mais à mon avis, c'est pas celui qui il est pernicieux, mais il m'inquiète pas au point que de l'autre. Puis l'autre étant la vitesse avec laquelle les forces conservatrices ont pris du galon au Canada en ce moment, et ils vont d'une vitesse incroyable. Changer politique en immigration, sur les réfugiés, sur les femmes, sur le syndicalisme, créer des espaces où la droite religieuse peut avoir plus de pouvoir. On défend les libertés religieuses, mais pas les droits humains. On censure des groupes, on change les modes de financement. Donc le public ne suit pas nécessairement ça, mais ça a un impact majeur, et ça va tellement. Il y a des députés qui veulent remettre en question le droit à l'avortement. Ça va vite et loin, et on n'est pas. C'est plus vite de ce qu'on est habitué à vivre. Et donc là, pour le moment, on n'a pas encore trouvé la manière de s'organiser. D'autant plus que le mouvement féministe au Canada, en dehors du Québec, est déjà. Un petit peu affecté par un ensemble de facteurs, des problèmes. Premièrement, il n'y a pas de mouvement comme on a au Québec. Et pourquoi? Un, il y a peu de groupes un peu institutionnalisés comme on a eu au Québec, financés par l'État. Donc, il y a moins de ça. Un, les groupes qui existent sont entièrement centrés sur le service ou à peu près. Donc, l'aspect action collective, éducation populaire n'est pas forcément là. Deuxième chose, c'est qu'elles ont pour la plupart pas su comment naviguer les changements qu'il y avait à faire dans le mouvement des femmes, dans les rapports de pouvoir et de privilèges entre blanches et femmes de couleur, entre immigrantes et femmes de la majorité, entre régions et villes, entre femmes autochtones et femmes de la majorité, lesbiennes, queer, toutes ces questions-là, ça s'est mal négocié les rapports et ça a créé des tensions importantes en même temps qu'il y avait des problèmes d'argent et les groupes ont éclaté et d'autres groupes ont carrément fermé. Donc, on n'a pas de vis-à-vis vraiment facilement accessible au Canada pour nous aider à faire les transformations qu'on souhaite faire ou en partenariat. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'au Québec, en ce moment, un groupe comme la FFQ, on vient de passer de 50% de financement public à 20% de financement public en un an. Et donc, on est nous-mêmes déstabilisés. On est forcés à un peu replier sur nous-mêmes pour nous restructurer en vue de se reprendre. Et ça amène un changement important parce que c'est une force et une faiblesse. On a pu s'appuyer depuis 15 ans sur des forces de travailleuses féministes qui étaient des organisatrices, des militantes. Puis aujourd'hui, on ne peut pas le faire autant et on a besoin de engager les femmes dans la lutte de façon plus active. Et sans, nos structures sont un petit peu moins flexibles pour trouver la manière de les accueillir. Et c'est là où on a besoin de s'organiser. Puis, je pense qu'il y a eu des événements qui ont permis de faire des ponts, comme le fait qu'il y a eu Rebelle, par exemple. J'imagine que vous en avez entendu parler. Rebelle, donc un rassemblement de jeunes féministes, c'était justement une occasion d'essayer d'organiser des jeunes féministes qui n'étaient pas rattachées à nulle part et dans une perspective de changement social assez important. Donc ça, là, c'est des choses sur lesquelles on va devoir probablement se baser pour essayer de voir comment on se réorganise, parce que ça, c'est des forces militantes. Mais puisque depuis 15-20 ans, la plupart des groupes ont pu s'appuyer sur des travailleuses, bien... c'est un changement de culture qu'on a à faire.
Les nécessités d'un féminisme adapté aux évolutions de la société.
Une des choses qui, je pense, marque l'histoire du Québec, c'est que le mouvement pour l'émancipation du peuple est arrivé en même temps, s'est développé avec un mouvement de classe. Et ce mouvement de classe était en même temps qu'un changement des femmes. Puis là, c'est dur de dire tout en peu de temps. Mais, tu sais, au Québec, l'Église a joué un rôle majeur pour maintenir les Québécois et les Québécoises dans des conditions de sous-scolarisation, de contrôle du corps et de l'esprit des gens et du corps des femmes en particulier. Les femmes ont un souvenir très, très vif du rôle de l'Église catholique dans leur vie et ça a amené une sorte de rejet profond de l'Église. Vraiment, on l'appelle une révolution tranquille. Puis il se fait sentir encore aujourd'hui à quel point les femmes ont... c'est toujours une question sensible. Aussitôt que l'Église essaye de se pointer le nez dans des enjeux qui touchent les femmes, c'est immédiat la réaction. Donc ça, c'est... Et on a réussi en un très petit court laps de temps de renverser ce pouvoir-là de l'Église dans la vie des gens. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment, là, mais ça, c'est majeur. Mais parce qu'il y a un mouvement nationaliste progressiste qui a existé au Québec depuis de nombreuses années, parce que les gens qui voulaient surtout une certaine affirmation du peuple québécois étaient aussi les gens qui disaient « on veut se scolariser, on veut un travail décent, on veut pouvoir avoir accès à une journée normale du travail, on veut des normes du travail, on veut pouvoir se syndiquer, on veut lutter contre un certain colonialisme canadien ». Et il y a eu ça en même temps qu'une effervescence féministe. Et donc, le fait que le mouvement national québécois est associé à ces mouvements d'émancipation, quand ils se sont arrivés éventuellement au pouvoir, ils ont aussi inscrit des politiques qui soutenait l'émergence, après beaucoup de luttes quand même, hein, c'était pas donné par les partis politiques, mais parce qu'il y avait des mouvements forts et un parti politique qui, à l'époque, était un petit peu plus ouvert, ça a permis la construction de maisons d'hébergement, de centres de femmes, de politiques sur l'égalité, un conseil du statut de la femme qui est un réseau aviseur paragouvernemental qui conseille l'État. C'est comme un ensemble d'infrastructures qui portent une vision plus égalitaire, disons. Certains iraient plus loin dans le niveau de transformation, mais ça a fait qu'il y avait de l'argent pour les groupes de femmes, comme il n'y en a pas eu dans beaucoup, beaucoup d'autres pays dans le monde. Et toute cette combinaison d'éléments ont fait que ça s'est institutionnalisé et a permis au mouvement d'être très, très fort. Mais il y a aussi, ça n'a pas toujours passé par ça. Il y a eu un cas dans le début des années 90 où un homme a essayé de forcer une femme à garder son bébé alors qu'elle voulait se faire avorter. Et c'est allé à tous les niveaux jusqu'à la Cour suprême du Canada. Il y a une mobilisation l'été par des militants, 10 000 personnes en plein été pendant que tous les groupes étaient fermés. Donc c'est pas juste une perspective qui est portée dans les groupes. Les femmes au Québec ont un taux de féminisme, si on peut se dire là, très élevé. Puis il y a aussi un bon nombre d'hommes qui trouvent que leur vie est améliorée aussi avec le féminisme. Et donc Dans les manifestations pro-choix, par exemple, il y a plein de gars là-dedans. Donc, il y aurait tellement de choses à dire sur pourquoi ça a été porté avec le temps, mais c'est fort. Le problème que je vois aujourd'hui, c'est que c'est porté dans le temps, mais c'est pas transformé avec la diversité de la population. Donc, c'est parfois un féminisme qui n'est pas toujours à l'aise avec les changements qui arrivent avec, l'arrivée d'immigrantes, notamment les militantes, les femmes qui viennent du Maghreb portant le foulard et compagnie. Et ça, je pense qu'il y a énormément de préjugés qui sont véhiculés. Donc, c'est là où parfois il y a des moments de courage à prendre parce que la FFQ, par exemple, a décidé qu'on allait dire... pas continuer à perpétrer l'image de la femme musulmane portant le voile ou le foulard comme étant une femme soumise. Ça peut être le cas, comme une femme qui ne le porte pas. Et que c'est plutôt de la... Notre travail, c'est de renforcer l'autonomie de toutes, tous.
Interview et prise de son réalisée par Lol, Charlotte, Oder et Marie. Montage de LOL et Jules. Jingle composé par Jojo. Commentaire de LOL et Jules. Merci à toutes et merci à Alexa Conradi pour sa participation.